20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est dans le genre du lead et de la mélodie que vient de s'illustrer au disque la soprano Elsa Dreissy à travers un beau programme dédié à Richard Strauss, Duparc et Rachmaninoff, programme dont elle défendra les couleurs en récital le 28 janvier au Théâtre des Champs-Élysées. À cette occasion, elle passera un petit moment avec nous ce soir. Le temps de notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale de la semaine, une semaine marquée par quelques nouvelles productions lyriques, une nouvelle production des Pêcheurs de perles de Bizet à l'Opéra de Lille à partir de jeudi. C'est Guillaume Tournière qui sera dans la fosse à la tête de l'orchestre de Picardie et du chœur de l'Opéra de Lille avec Gabriel Philipponnet dans le rôle de Leïla, Marc Lahore dans celui de Nadir et André Eboer en Zurga. Dans une mise en scène du collectif anversois FC Bergman qui, nous dit-on, a choisi de se mettre à distance de tout pittoresque, de dépouiller le récit de son cadre exotique pour se concentrer sur le cœur de l'intrigue avec, nous promettons, un humour teinté de mélancolie. Ces pêcheurs de perles de Bizet, c'est donc à découvrir du 23 janvier jusqu'au 4 février à Lille. Quant à la scène lyonnaise, c'est avec la Tosca de Puccini qu'elle débute la nouvelle année lyrique. Avec la reprise de cette production mise en scène par Christophe Honoré, créée l'été dernier au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Une mise en scène bâtie autour de la figure d'une prima donna âgée, qu'incarne ici Catherine Malfitano. Une diva entourée ici de chanteurs qui prépare un gala en son honneur et chante Tosca dans son salon. Parmi ses chanteurs, Elena Gusseva, c'est elle qui incarne Tosca, Massimo Giordano dans le rôle de Mario Cavaradossi et Alexei Markov dans celui de Scarpia. Et c'est Daniele Rustioni qui dirige l'orchestre de l'Opéra de Lyon. La première, c'est ce soir, en ce moment même, suivront 8 représentations jusqu'au 5 février. Après Tugan Sokiev, la semaine dernière, c'est au tour de la chef américaine Karina Kanellakis de retrouver l'Orchestre de Paris pour la deuxième fois de la saison, puisque c'est elle qui avait dirigé le concert d'ouverture au mois de septembre à la Philharmonie de Paris. Karina Kanellakis fait partie de ces chefs avec lesquels l'orchestre a choisi d'entamer une collaboration dans le cadre de sa réflexion sur la nomination d'un prochain directeur musical. Elle dirigera ainsi la 10e symphonie de Shostakovich et le concerto pour violon de Sibelius, mercredi et jeudi à la Philharmonie de Paris, en compagnie du violoniste Joshua Bell, qui devrait donner toute sa force et son lyrisme à la partition envoûtante de Sibelius, Joshua Bell, que l'on écoute ici dans quelques notes de la sonate de Franck. Thank you. tout début de la sonate de Franck par Joshua Bell et Jean-Yves Thibaudet. Joshua Bell qui jouera le concerto de Sibelius mercredi et jeudi soir à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris sous la direction de Karina Kanellakis.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Un nouvel album et un grand rendez-vous le 28 janvier au Théâtre des Champs-Élysées pour la soprano Elsa Dreissy, qui a choisi de se plonger dans le monde de la mélodie et du lead en compagnie du pianiste Jonathan Ware, et cela autour d'un beau programme associant les quatre derniers leaders de Richard Strauss à des pages de Duparc et de Rachmaninoff. Elsa Dreissy est notre invitée ce soir dans le journal du classique et elle nous parle tout d'abord de son rapport à la mélodie, genre qui occupe une place aussi importante dans son cœur que l'opéra.
En fait, je sépare pas trop dans ma tête, c'est chanter. Donc chanter de l'opéra, chanter du lead ou de la mélodie, chanter en récital, en concert accompagné par orchestre, etc. C'est une façon de m'exprimer avec ma voix chantée. Ce qui est très particulier pour moi dans le lead, c'est que je peux travailler avec des pianistes que j'ai choisis moi. À l'opéra, on choisit pas l'orchestre, on choisit pas le chef d'orchestre, on nous impose des collègues. Alors des fois, il y a des super rencontres, des super surprises, et des fois, on doit plutôt faire des compromis et se dire « zut, si j'avais été avec tel chef, j'aurais été meilleur ». Là, ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité d'être entièrement soi, d'avoir une liberté d'expression, d'épanouissement personnel, d'exigence aussi, parce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui partage les mêmes exigences sur les mêmes niveaux. Des fois, il y a des gens qui prennent beaucoup d'importance sur tel détail, alors que pour moi, ça compte moins, etc. Donc là, ça me permet de choisir un partenaire avec qui je sais il y a une stimulation, il y a une curiosité mutuelle à apprendre l'un de l'autre, à partager de la musique, etc. Et du coup, là, avec Jonathan Ware, qu'on s'est rencontré il y a quelques années déjà, quand j'ai fait une académie de lead à Heidelberg, Frühling, ça s'appelle l'académie, et on a eu un petit, on va dire, un coup de foudre musical. Et du coup, quand je peux, j'essaie de favoriser des moments dans ma saison où je peux avoir ces moments de partage avec des gens que je connais et que j'ai choisis pour des qualités qui me sont chères.
Thank you.
La chanson triste de Duparc, qui figure au programme de votre album Elsa Tracy, enregistré avec le pianiste Jonathan Ware. Un album qui met en avant votre complicité avec Jonathan Ware et qui vous permet également, à travers ce genre de la mélodie, d'être libre, puisque vous n'avez pas de metteur en scène pour vous dire quelle intention donner au personnage, à vos expressions musicales. C'est aussi cela, j'imagine en tout cas, l'un des plaisirs de la mélodie, construire soi-même, en tout cas avec son partenaire, son propre univers, les émotions que l'on a envie de traduire.
Ben, c'est un des grands plaisirs. Après, c'est aussi une des grandes prises de tête. Ça demande un travail constant d'imagination. Je pense pas être de ces personnes qui, à la première écoute, ça ne coule pas de source, dans le sens, je me dis pas, ah, ça doit être comme ça. Donc, j'essaie d'être inspirée, en fait, par des différents enregistrements que j'entends. Je m'inspire aussi de chefs de chant avec qui je travaille, qui me donnent des conseils, si je puis dire. Et après, je fais ma sauce. Mais ça serait mentir de dire que toutes les idées viennent de moi et sont une entière invention personnelle.
Donc, c'est nourri forcément des autres, hein, de voilà. L'expérience donc, des autres, c'est normal ça.
Donc en fait, ce que je trouve, c'est que le lead et la mélodie, on ne peut pas être flemmard. Dans le sens, à l'opéra, des fois, on peut se reposer un peu sur nos lauriers. C'est, on peut dire, là, c'est un moment où je laisse ma voix sonner pleinement et où je mets mon instrument vocal en avant. Et surtout dans un disque de mélodie et de lead, ça ne marcherait pas du tout. Parce que après la troisième mélodie, on commencerait à s'ennuyer. Donc je trouve qu'en fait, ça stimule l'esprit, ça oblige à un travail poussé. C'est une discipline que j'aime bien garder pour mon bien-être personnel et aussi pour ma stimulation intellectuelle.
Et on perçoit à travers votre album, Elsa Tracy, votre imagination, votre sens de la construction dramatique aussi, puisque c'est un programme tout à fait original qui associe des mélodies de Duparc, de Strauss et de Rachmaninov, des mélodies qui s'entrelacent, qui appartiennent pour certaines à des cycles, mais vous avez choisi de rompre ces cycles, comme notamment celui des quatre derniers leaders, pour construire quelque part votre propre dramaturgie. Comment Exactement. Définiriez-vous votre démarche ?
J'aime bien aller dans des terres inconnues, et c'est vrai que de rompre un cycle, c'est déjà un acte en soi. J'ai trouvé aussi que Duparc, Rachmaninov et Strauss étaient trois compositeurs. Je dis « je », mais c'était un travail vraiment ensemble avec Jonathan. On a trouvé tous les deux que ces trois compositeurs se mariaient extrêmement bien de par leur curiosité avec le texte, comment faire marier la ligne vocale au texte qu'on est en train de chanter. Aussi des couleurs au piano très différentes, à la fois très caractéristiques, c'est-à-dire qu'on reconnaît dans le CD, même si disons que je chante, si toutes les langues étaient en allemand, on reconnaîtrait quand même le style Duparc, le style Rachmaninov et le style Strauss.
Ah, vous ne les avez pas effacés, hein, ces styles.
Donc voilà, ces trois styles, on a voulu. Voilà, on n'a pas du tout voulu les unifier. Au contraire, ça m'a aidé à trouver ce qui était caractéristique des trois compositeurs. Même au niveau de la langue, tout simplement, de qu'est-ce que ça fait de chanter en russe, qu'est-ce que ça fait de chanter en français et en allemand. C'est parti, je crois, d'une idée assez poétique de. Ces quatre derniers leaders, on pensait au chemin émotionnel qui nous font traverser, à une sorte d'initiation au travers les saisons à la fois de réelles, le printemps, l'été, l'hiver, l'automne, mais aussi les saisons de l'âme avec l'amour qui apparaît tout un coup, qui devient source d'inquiétude, qui en plus après se marie à peut-être la source de la perte, de la mort, etc. En fait, c'est un voyage initiatique. Et en pensant à ce mot voyage, j'ai dit, mais attends, il y a l'invitation voyage de Duparc. Et en fait, on est parti de ça, de cette idée d'un voyage qu'on construirait entre plusieurs compositeurs qui ont à la fois un langage très particulier et personnel, mais qui, d'une manière, s'unissent, ont un lien plus fort qu'eux, en fait, quelque chose qui nous dépasse. Et c'est comme si ces trois compositeurs, par leur génie, par leur façon de sublimer une idée poétique avec leur musique, ont atteint une sorte de lien qui est universel.
Thank you.
Frühling, l'un des quatre derniers leaders de Richard Strauss que vous chantez ici, Elsa Tracy, avec le pianiste Jonathan Ware, dans cet album où ces quatre derniers leaders alternent avec des mélodies de Duparc et de Rachmaninoff. Comment décririez-vous vos liens avec Strauss? Est-ce que vous avez déjà incarné une héroïne straussienne sur scène?
J'en ai pas de souvenir.
Non, sur scène, pas encore. Non. Alors, mon lien, c'est quand même que j'ai chanté la scène finale de Salomé dans mon premier CD, album. Et le lien à Strauss, c'est que je suis un peu... J'allais dire obsédée par Salomé. Enfin, c'est un rôle qui m'appelle. Je sens que je vais avoir mon mot à dire chez Strauss. Mais sinon, j'ai chanté cet été les quatre derniers leaders avec orchestre en Corée. Je pense que c'est important pour moi d'explorer Strauss aussi avec piano pour vraiment m'habituer à ce compositeur, à aussi comprendre la ligne vocale. J'ai l'impression que c'est une façon aussi de me préparer peut-être pour des plus grands rôles. Une façon de dire bonjour, d'apprendre à se connaître.
De découvrir un univers.
De découvrir un univers, exactement.
De se l'approprier. Donc ici, à travers ces quatre derniers leaders que vous chanterez en récital à l'occasion de toute une tournée qui passera notamment par le Théâtre des Champs-Élysées et Bordeaux. Et vous présenterez ce même programme qui alternera différents leaders. Donc il n'y aura pas le cycle complet, mais véritablement ponctué.
Ce sera en fait pratiquement le programme du CD. Alors moi, pour des questions vocales, je ne peux pas me permettre de faire tout le CD à chaque fois. Je suis obligée de me ménager, donc le même programme du CD, un peu plus léger. À vrai dire, pour être honnête, je ne l'ai pas encore vécu à part entière ce voyage, parce que quand on enregistre un CD, je ne l'ai pas enregistré dans l'ordre des pistes. Je ne sais pas encore ce que moi, en tant qu'interprète, je vais vivre, de commencer par l'invitation voyage de Duparc et de finir par Morgan de Strauss. Ce sera complètement une expérience nouvelle et j'espère qu'elle se renouvellera à chaque fois d'une façon différente dans les lieux, par rapport au public aussi qui sera là.
Oui, ça s'annonce également une expérience très forte pour le public. Oui. Alors cette année 2019 passée a été très riche pour vous, Elsa Tracy, avec quelques rôles importants. Vous vous êtes fait remarquer, on se souvient de cette Zerline à l'Opéra de Paris dans Don Giovanni, qu'on avait vécu sur l'antenne de Radio Classique. Il y a eu d'autres rôles, Manon, que vous avez chanté à Zurich, et puis plus récemment, en début de saison, Elvira dans Les Puritains, un rôle... C'est un moment très fort.
Je peux dire pour l'instant que ça a été le moment le plus fort. Ouais. J'ai eu des prémices de cette sensation en chantant, en interprétant la Violetta dans Traviata, déjà à Berlin, en chantant Manon à Zurich. Mais il y a eu quelque chose de très particulier, d'une très grande peur avant d'interpréter Elvire, avant de pouvoir me lancer complètement dans ce rôle, une peur d'un vide, d'un inconnu que j'avais pratiquement jamais ressenti jusqu'à maintenant. Et en fait, ça a été un stimulant et une énergie très porteuse. Et un succès, ça a été c'est le plus gros cadeau après avoir donné autant.
Vous avez été salué par la critique comme par le public pour cette Elvira. Alors, vous avez fait également vos débuts en fin d'année sur une scène importante à Covent Garden, à Londres, vous avez chanté Pamina, un rôle que vous commencez à bien connaître, hein, j'imagine. Oui. Vous l'aviez chanté notamment à l'Opéra de Paris. Parlez-nous de cette année 2020. Quels seront vos nouveaux défis ou vos prises de rôle? Il y en a quelques-unes importantes. Hein.
Tout à fait. La prochaine grande prise de rôle sera Fjordiligi à Berlin, dirigée par Baron Boehm. J'ai pas encore interprété de vrai grand rôle mozartien, même si Pamina, c'est un très très beau rôle de Mozart et ça a toujours été mon opéra préféré et ça le restera. Il y a quelque chose chez cette héroïne qui la met un peu à l'écart. C'est un opéra qui la met pas forcément complètement en valeur. Et on peut pas dire que non plus Zerline ce soit le rôle du siècle chez Mozart.
Vous lui avez donné beaucoup de caractère, Zerline.
C'est gentil. Mais en tant qu'interprète, on va dire que c'est pas non plus là où je me suis éclatée le plus de ma vie. Ça a été très sympa, c'était une très belle production. Mais c'est le défi est moindre que chanter Fjordiligi dans Cosi. Donc là, voilà. Là, Fjordiligi, que ce soit d'un point de vue du humain, du caractère ou même vocal, il y a une très grande envie et je suis très enthousiaste à l'idée de chanter ce rôle. Et à la suite de Fjordiligi, je ferai aussi mes débuts dans Gilda. Ici, à Paris, à l'Opéra de Bastille. Et là aussi, ça va être un vrai défi parce que, a priori, je me sens pas très soprano, lyrique léger dans l'âme. J'ai pas du tout une voix dramatique, mais à l'intérieur de moi, j'ai plutôt la sensation que j'aime les rôles qui sont plus médiums, avec assez lyrique et pas trop coloratour aigu. Et dans Gilda, je vais devoir explorer cette zone plus aiguë de ma voix, plus légère aussi, peut-être plus flexible. Ça sera un défi vocal.
On a l'impression que vous aimez cela, les défis, Elsa Tracy. Vous avez déjà chanté des rôles particulièrement forts alors que vous êtes toute jeune. Mm-hmm. La Traviata, Elvira, ce sont des rôles que certaines chanteuses attendent avant d'aborder. Vous y allez avec votre fraîcheur, votre enthousiasme, votre audace aussi. Et jusqu'à présent, ça a toujours merveilleusement fonctionné. Mais quelque part, vous avez ce côté un peu « allez, j'y vais, je fonce ». Où vous réfléchissez, j'imagine, quand même, mais où vous pesez
Oui, en fait, disons que je m'écoute. Je me méfie, en fait, énormément des on-dit, des conseils extérieurs. J'ai quelques personnes que j'écoute profondément, mais je me laisse très peu influencer par les courants, que ce soit cette chanteuse a chanté tel rôle à cet âge et elle s'est cassée la voix, donc le rôle est dangereux, ou sinon, carrément, pour réussir à chanter 30 ans sur scène, il faut attendre 20 ans avant de chanter son premier Strauss. Pour moi, tout ça, ce sont des carcans, c'est des sortes de dictats qui sont menés par la tradition peut-être, par aussi la peur, l'angoisse des autres. Et donc là, ça, je me laisse surtout jamais mener par ça.
Mais vous écoutez votre voix.
J'écoute ma voix, je sais, et je pense être lucide dans le fait que quand je dis oui, c'est que je sais que je peux y arriver. Après, je l'ai déjà dit souvent, mais j'insiste dessus, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si demain je chante Gilda, donc ça va, c'est à peu près demain que je la chante d'ailleurs, donc j'aurai quel âge ? 29 ans. Donc, on peut pas attendre de moi de chanter Gilda comme si j'avais 10 ans de carrière et que j'en avais 35. Je trouve qu'il est logique d'interpréter le rôle à l'âge et au moment de notre carrière à laquelle on est, et que c'est pas parce que je vais faire une Gilda peut-être avec une voix plus jeune qu'une autre chanteuse, elle aurait moins de raison d'exister.
Et puis Gilda est très jeune.
Et puis Gilda est très jeune
comme
en plus.
Mais
c'est juste qu'on
opéras.
Pense à Verdi, des fois, l'orchestre, il faut que ça passe, etc. En fait, le problème, c'est qu'il y a toujours une raison de ne pas chanter les rôles. J'ai décidé de plus du tout me soucier de ça, d'accepter que ma vie est stressante. C'est rare les mois où je suis en mode je me sens en sécurité. Non, ce n'est pas des sensations que j'ai dans ma vie, mais en même temps, j'explore une terre inconnue qui m'alimente quotidiennement et qui, je pense, me fait grandir en tant qu'artiste et vocalement.
Voilà, et votre nouvel album Elsa Tracy vient de paraître. Il réunit des mélodies, des leaders de Strauss, Rachmaninoff et Duparc, des cycles qui s'entrelacent. Il s'intitule Morgan qui signifie demain, et qui a une symbolique.
Voilà, ce qu'on a aimé dans le titre, c'est que Morgan en allemand peut signifier à la fois donc demain, mais aussi le matin. Et une traduction poétique, ce serait aussi l'Est, le soleil levant. C'est très beau parce qu'il y a un double sens, parce qu'on peut entendre, est-ce que Morgan C'est le jour qui se lève, donc un jour nouveau dans lequel on se trouve, un voyage qu'on va commencer, ou est-ce que c'est demain, c'est un voyage vers lequel on va, vers lequel on tend. J'aime bien cette double signification parce que quand on traverse le disque, le programme que nous avons fait avec Jonathan, on peut se demander est-ce que c'est un voyage qui s'est fini, qui se finit avec le disque, ou est-ce que c'est à la fin, c'est une façon de dire « Ok, demain, je recommence ». C'est aussi une façon philosophique d'approcher sa propre vie, donc il y avait à la fois un sens poétique, mais voilà, j'aimais bien la symbolique du mot.
Voilà. Et demain, vous recommencez de nouvelles aventures, en tout cas cette année 2020, puisque je rappelle, vous serez Fiordi Ligi à Berlin au mois d'avril avec Daniel Barenboim et Gilda, votre première Gilda du Rigoletto de Verdi à l'Opéra de Paris, ce sera au mois de juin. Merci beaucoup Elsa Traissi. Une romance de Rachmaninov, un nouvel extrait de ce bel album Morgan que vient de nous offrir Elsa Traissi avec le pianiste Jonathan Ware chez Decca, un programme qu'ils donneront donc en concert le 28 janvier sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées dans le cadre de la saison Les Grandes Voix. Et c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marine Bourcard pour sa réalisation. Demain, c'est le chef d'orchestre Julien Masmondé qui sera notre invité et qui nous présentera sa tribu des Apaches. Très belle soirée, une soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.